Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Okapi vous propose sa tribune de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La tribune de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Voilà, c'est le Corto qui compose l'équipe technique qui réalise d'ailleurs cette émission d'aujourd'hui. Se présente de la manière suivante. William Longamba assure la mise en onde de cette émission qui est réalisée par Patsy Mapoukou sous la coordination de Marcel Ngombombala et au micro J.R. Lungembo. Nous avons, comme je l'ai dit, Valentin dans ce studio. Monsieur Valentin, quand on parle de la kleptomanie, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces concepts?
Oui, la kleptomanie, c'est comme vous l'avez bien dit, nous avons la manie d'abord, la manie qui signifie la manière. En d'autres termes, c'est le comportement, un comportement qu'on observe avec une obsession de voler des objets, sans toutefois avoir l'idée de voler pour un intérêt particulier, par exemple pour aller le revendre ou pour des intérêts personnels, mais vous volez pour le plaisir de voler. Et à ce moment-là, par rapport à cette obsession qu'on va toujours observer, et c'est auprès de cet individu qu'on va qualifier comme étant kleptomane. Donc, il faut faire la différence entre un voleur et un kleptomane. Un voleur, c'est celui qui vole, et quand il vole, c'est par rapport à un objectif précis, c'est pour aller revendre, par exemple, ou par rapport à ses intérêts personnels.
Souvenir à un besoin.
Mais par contre, un kleptomane, il vole rien que pour le plaisir de voler.
Voilà, donc si je comprends bien, c'est une maladie mentale.
C'est déjà un trouble mental, ça c'est vrai, parce que au niveau du développement de l'enfance, il y a un moment où on observe aussi un comportement pareil auprès de l'enfant. À ce moment-là, on ne peut pas parler de kleptomanie, par contre, on appelle ça de l'arsène. Donc, il y a une différence entre le larcin et la kleptomanie. Le larcin, c'est souvent au niveau de la deuxième enfance. Et dès qu'il y a apparition, par exemple, de ce qu'on appelle en psychologie l'égocentrisme, avec l'égocentrisme, donc l'enfant qui va se dire que l'univers m'appartient, ça signifie aussi en d'autres termes que tous les objets qui l'entourent, ce sont des objets qui lui appartiennent. Bon, à ce moment-là, il peut le prendre pour plaisir de le prendre, ça c'est lié par rapport à son âge. Mais quand on trouve une évolution qui dépasse son âge et aussi un comportement qui affiche aussi l'obsession, c'est assez malin, ça devient la kleptomanie.
Une curiosité, M. Valentin, est-ce que la kleptomanie peut être héréditaire? Est-ce qu'on peut hériter ça de ses parents?
Non, la kleptomanie, c'est plus... Il y a deux causes jusque-là, il y a des causes biologiques, et il y a des causes aussi qui sont liées à la psychologie, donc des causes psychologiques. Généralement, on cite le cas de stress. Hein, et un enfant beaucoup plus stressé, frustré, ça peut l'amener à devenir à la longue un kleptomane. Par exemple, l'enfant qui observe auprès des autres, donc c'est lié à l'environnement. Hein, qui trouve que c'est à la maison, il n'y a rien, et puis les parents n'arrive pas à suffire à ses besoins et que tout, mais il veut bien l'avoir et avec le temps, il peut développer. Mais par rapport au niveau de l'étude épidémiologique, entre les hommes et les femmes, ce sont les femmes souvent qui sont des kleptomanes.
Ah ben, pour quelle raison? Les femmes, je ne sais pas.
Je ne dirais pas qu'il y a déjà eu une étude beaucoup plus déterminée pour voir est-ce que si le sexe influe généralement et pour devenir kleptomane, et que par rapport, par exemple, à l'envie et puis à beaucoup de plaisir, beaucoup d'intuition qu'on trouve chez les femmes d'avoir toujours les histoires, mais on trouve beaucoup de femmes kleptomanes par rapport aux hommes.
Voilà, donc je retiens, M. Valentin, que cette kleptomanie est caractérisée par une obsession à voler des objets.
À voler des objets, sans toutefois avoir intérêt d'aller le revendre ou d'un intérêt personnel. pour, par exemple, pour se souvenir à ses besoins. Non, on le vole pour rien que pour le plaisir de voler.
Alors, où réside la manie? Est-ce dans l'acte de voler ou dans l'appropriation des biens?
C'est dans la manière de voler. Parce que, qu'est-ce qu'on a toujours observé? Soit, il vole, et avec un temps, il trouve discrètement pour aller, soit le restituer. Parce qu'on observe auprès des kleptomanes un comportement d'anxiété, un peu d'angoisse, pour se dire, mais pourquoi j'ai pris? Et par après, soit par cette attitude-là d'angoisse, il peut arriver à jeter ça, ou il peut arriver discrètement pour aller restituer. C'est ça la différence par rapport aux voleurs qualifiés.
Oui, si on peut peut-être revenir encore sur cet aspect, est-ce que tout voleur est forcément kleptomane?
Non, par contre, par rapport aux études qui ont été menées, il n'y a que 5% des voleurs qu'on trouve que ces voleurs sont au même moment kleptomanes. Donc, le 95%, ce sont des voleurs qualifiés. Donc, la différence entre un voleur, je préfère insister là-dessus, avec un kleptomane d'abord, il a un trouble psychologique. Ce trouble l'amène à voler les histoires rien que pour voler. Il n'a que le plaisir pour le prendre. Et il n'a pas un intérêt pour de valeur par rapport à ces objets. C'est ça la différence.
Est-ce que ce trouble psychologique peut évoluer par rapport à l'âge?
Oui, bon, parce que j'ai bien dit, par rapport à la deuxième enfance, un enfant qui avance jusqu'au deuxième enfance, cet enfant peut continuer, par exemple, avec le larcin, vous ne pouvez pas le qualifier comme étant kleptomane. Par contre, ça, quand ça dépasse le deuxième âge, la deuxième enfance, troisième enfance, il devient déjà un adolescent, oui. Il continue avec une obsession. Et à ce moment-là, il devient un kleptomane. Un adulte qui vole rien que pour le plaisir de voler, vous comprenez? Donc, il est d'office un kleptomane.
Donc, on peut quitter la kleptomanie vers le vol définitif de sa vie. Donc,
oui,
donc ça peut conduire.
C'est dans les 5% que nous avons dit. Donc, il y en a vraiment qui deviennent comme étant des voleurs qualifiés, qui commencent à comprendre un peu la valeur de ces objets et aller le revendre pour subvenir à ses besoins. À ce moment-là, il devient un voleur qualifié.
Alors,
mais par contre, quand il reste dans ce trouble, c'est-à-dire il vole rien que pour voler, pour le plaisir de voler, et à la longue, on l'observe, soit il y a de l'angoisse et l'anxiété pour aller restituer encore ses biens. Donc, c'est malade, c'est un cas pathologique, c'est mieux qu'on puisse prendre ça en charge.
Alors, la kleptomanie chez l'adulte est-elle la même chez un enfant?
Je préfère préciser parce que au niveau de diagnostic différentiel, un enfant qui se trouve à l'âge de la deuxième enfance ou de la troisième enfance, il est pratiquement difficile de le qualifier comme étant kleptomane. À ce moment-là, il s'agit tout simplement de l'accès, ce qui est un comportement normal au niveau de l'évolution de l'enfant. Je sais que les parents, très souvent, sont mécontents. Ils qualifient ça dans les cadres de droit, dans les cadres moraux, que ce n'est pas bon que l'enfant puisse déplacer tel ou tel autre objet. Mais par rapport à son âge, ça, c'est bon. Nous sommes passés tous par là.
Tout à fait.
Du fait que l'univers, on le prenait comme étant notre truc, ainsi de suite. Donc, tout ce qui vous entoure, ça vous appartient. À ce moment-là, on peut trouver ça comme étant normal. Mais quand ça dépasse des limites, à ce moment-là, on peut parler de quoi ça, de kleptomane.
Oui, il y a pas mal de questions, mais il est temps pour nous de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous faire parvenir leurs petits soucis, hein, et surtout leurs préoccupations par rapport à cette question. Vous avez peut-être un enfant ou toute autre personne autour de vous qui est proche et qui ne peut se retenir de dérober des objets. Et ça vous inquiète au plus haut point. Vous cherchez de voies et moyens ou de pistes de solutions pour aider cette personne qui vous tient à cœur. Alors n'hésitez pas à composer le 081 890 63 77 pour les appels et le 081 070 20 50 pour les SMS. La course de l'information sportive sur Radio 4.
Nanambala, au démarrage, passe le relais à deux de Mekabea Nganula, qui fonce vers le micro et le passe à Kalifou Kongo Chamboul. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumbala sent. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et...
Victoire.
Le 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tout le dimanche, à partir de 15h, lors de Kinshasa.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et si vous nous rejoignez, bienvenue à Okapi Service. Dixie, vous nous appelez de Baraka, au sud Kivu, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à l'invité.
Voilà, quelle est votre préoccupation?
Oui, moi je voulais savoir parce que j'ai un petit frère. À tout moment, quand on lui confie de l'argent d'aller quelque part ou bien d'aller acheter quelque chose au marché, il va à tout moment retrancher cet argent-là. Et si vous grondez, il ne change pas. Et puis, même si vous terminez à manger, tout ce que vous avez fait, c'est que vous laissez quelque part les repas, mais vous allez toujours rencontrer que le petit-là a pris les repas. Comment on peut qualifier de ce style?
Merci beaucoup, Dixie. Coucou à tous ceux qui nous suivent à Baraka. Monsieur Valentin, est-ce qu'on peut qualifier ça aussi de cryptomanie?
Dans un premier temps, on doit d'abord observer par rapport à son âge et à quel âge. Par rapport à l'âge, s'il s'agit de l'argent, c'est nécessaire qu'on puisse combattre ça par rapport à des comportements appropriés. Parce qu'on dit généralement, devant un voleur, c'est mieux de lui confier des responsabilités ou bien le contrôle des histoires. Et à ce moment-là, ça peut guérir facilement l'individu. Lui confier des responsabilités pour aller acheter des histoires, c'est une bonne chose. Qu'on continue, je suis sûr qu'il va s'amender. Mais c'est important que ça puisse... qu'on puisse observer deux examens, parce que parmi les causes de quoi ça de la kleptomanie, c'est un comportement normal. Oui. Il y a des causes biologiques et il y a des causes psychologiques. Oui. Voir s'il y a des problèmes biologiques, à ce moment-là, il y a des médecins, il y a un traitement approprié par rapport à ça, je suis sûr. S'il y a une neurone qui était touchée par rapport à ça, je suis sûr qu'après traitement, il peut bien se retrouver.
Mais dans bien des cas, il y a souvent des causes psychologiques.
Des causes psychologiques. Très souvent. C'est mieux de revoir aussi les comportements au niveau de la famille. Est-ce que cet enfant est entouré de beaucoup de stress? Est-ce qu'il y a beaucoup de frustration au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a trop de bousculades au niveau de la famille ou bien comment? Les guérir par rapport aux responsabilités des confinés, c'est une bonne chose, mais au même moment, s'attaquer aussi aux facteurs éthérogiques que nous avons
déjà évoqués. C'est la première enfance ou la deuxième enfance qui est caractérisée par une curiosité de la part de l'enfant. L'enfant qui voit tout autour de lui les comportements affichés par les parents et par le proche également, copie systématiquement ou automatiquement ce qu'il observe. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que, effectivement, la deuxième enfance est aussi, et ça peut amener aussi l'enfant, du fait qu'il est en train de passer l'étape de curiosité.
Nous avons dit la deuxième enfance avec l'égocentrisme. Et à la longue, ça suscite cet intérêt-là de l'arsen. C'est possible que ça peut avancer jusqu'au niveau de la troisième enfance.
Alors, il faut arrêter l'hémorragie le plus tôt. Sinon, ça risque de. L'enfant risque de se perdre dans ce comportement.
Non, au début, par rapport au larcin, on ne peut pas interdire à l'enfant. C'est un comportement tout à fait normal. On ne peut pas lui refuser d'avoir l'égocentrisme pour se dire que l'univers m'appartient.
Donc, on ne fait rien.
Il faut aller lentement par rapport à l'âge de l'enfant. Vous savez, même le nationalisme. Mais par rapport aussi de l'égocentrisme, c'est pour dire que la nation m'appartient, c'est ma nation, je suis censé travailler pour ma nation en d'autres termes. Donc s'il n'a pas cette estime, vous allez supprimer ça dans le bas âge, ça ne sera pas une bonne chose, donc vous allez lui supprimer aussi le sens patriotique qui va venir avec le temps. Donc c'est un comportement au début qui est un comportement normal, mais ça devient anormal, c'est quand l'enfant arrive à poser cet acte au-delà de l'âge toléré. Et quand ça dépasse les limites, à ce moment-là, il faut commencer par les interdits sociaux, commencer avec les normes sociales. Vous allez amener l'enfant à s'amender petit à petit pour savoir qu'il a des limites par rapport à cet univers, qui tout ne lui appartient pas, même si tout est bon à faire, mais tout n'est pas bon aussi de poser comme acte. Donc, c'est comme ça qu'on va amener petit à petit à la socialisation auprès de l'enfant pour poser les actes qui le sont beaucoup plus responsables et tolérés par la société.
Nous avons encore deux auditeurs en ligne, Augustin Oumekoko de Kananga et Fike Salomon Mutungiya. Nous prenons d'abord Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Augustin. Augustin, bonjour. Voilà, nous prenons Salomon. Salomon Mutungiya. Bonjour Salomon. Bonjour Salomon. Voilà. Nous disons que l'environnement joue un rôle aussi important hein, dans les comportements. De... Bonjour Salomon.
Augustin.
Oui, bonjour Augustin.
Bonjour. Oui, bonjour.
Oui, allez-y.
Ah, je voudrais juste poser ma question à notre invité. C'est un débat qui est suivi par les baptistes, donc ça pourrait plus aider. Ah, il semble que l'invité a un caractère trop scientifique. Il essaie un peu de préciser l'âge de la première enfance. Donc ça, les auditeurs pourront un peu comprendre. Donc c'est un débat vraiment important parce que nous confondons souvent comment un enfant il n'est pas voleur, c'est un caractère, bon, disons, nous, et un voleur à quel âge, tout ça. Il est temps de préciser les auditeurs comme ça, ça pourrait aider. Parce que préciser, c'est mieux que de parler trop scientifique.
Voilà, donc on va vous aider hein, pour situer un peu la première enfance et la deuxième enfance. Monsieur Valentin, en tant que psychologue, la première enfance, c'est dès que l'enfant est né, jusqu'à quel âge?
La première enfance, c'est zéro. Jusqu'à 3 ans. Mm-hmm. 3 ans, 5 ans, 6 ans, ça c'est pour la deuxième enfance. Et la troisième enfance, c'est de 6 jusqu'à 10 ans, 11 ans.
C'est l'âge scolaire déjà.
C'est l'âge scolaire déjà.
À 6 ans, oui. Voilà. D'accord, Salomon, vous êtes encore avec nous? Voilà, nous prenons alors Augustin Oumekoko de Kananga. Bonjour Augustin.
Bonjour Radio Kati, merci à l'invité.
Merci à vous.
Bon, j'aimerais poser une question à l'invité. Comment reconnaître un kleptomane et quels sont les moyens de prévention?
Voilà, on revient sur ça d'ailleurs, on l'avait dit au début de cette émission. Comment reconnaître la kleptomanie? Donc, c'est quoi d'abord la kleptomanie? Si on peut revenir, parce que les auditeurs viennent à peine de nous prendre un cours, en cours de route, hein, donc on va comprendre.
Bon, ce que nous devons reconnaître par la kleptomanie est définie comme étant une impulsion obsédante à voler des objets et ceci. Ni pour usage personnel, ni pour leur valeur monétaire. Donc, l'individu vole rien que pour voler, et qu'est-ce qu'on observe avec le temps? Soit il arrive à jeter même ces objets-là, soit il arrive discrètement à remettre, restituer ça au propriétaire. Et dès que vous observez cet acte-là posé par un consciencieux, donc quelqu'un qui a l'âge de la maturité, qui reconnaît la valeur des choses, à ce moment-là, vous allez vous dire que celui-là, vraiment, il est kleptomane. Et ce qui est aussi nécessaire, ce n'est pas parce qu'il a posé l'acte aujourd'hui que vous allez les qualifier comme étant kleptomane, mais vous allez voir une répétition par rapport à son comportement. C'est pourquoi on parle de l'obsession. Donc, il est en train de voler. Il commence à avoir une manière rien que pour voler des objets là. Il ne vole rien que pour voler. On peut même lui poser la question, mais tu viens de voler? Ah, je volais. Ah oui, mais tu as ça à la main. Mais ce n'est pas pour toi. C'est comme ça on te dit que tu as volé. Ah bon? Mais vous lui posez la question, mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Il dit non, mais je ne savais pas aussi que j'ai pris ça. Ah, comme ça vous reprenez? Comme ça, vous reprenez. Donc, c'est presque le tableau clinique d'un kleptomane. Donc, c'est beaucoup plus facile pour reconnaître un kleptomane, c'est quand un individu est en train de voler les objets, rien que pour voler, sans toutefois qu'il puisse en faire comme usage personnel.
C'est d'une personne, c'est qu'on voit des gens friqués, des gens avec beaucoup de moyens, mais kleptomanes, qui sont de la kleptomanie, qui volent des petits objets, des petites pièces sans valeur d'ailleurs.
Oui, dans le sens figuré, il y a le professeur Yaoui, dans son procès de la société congolaise, il avait qualifié que les Congolais, ils volent même ce qui leur appartient. et ils volent rien que pour voler, comprenez, les gens avec 15, 20 parcelles, même là, dans le faubourg, là-bas, on est en train de distribuer les terrains, il part encore, mais il prend, et il n'arrive même pas à améliorer ces milieux-là, mais il a pris un grand terrain là, mais il le laisse comme ça. Demain ou après, demain là-bas, il manigance encore, il a un gros terrain là, il ne fait rien avec. Donc, ça devient un peu pathologique.
Même dans ce livre-là, il qualifie tous les Congolais, il compare les Congolais. Congolais a un enfant de 9 ans. Un enfant de 9 ans qui est un peu curieux. C'est vraiment un livre intéressant, le français de la société congolaise. Voilà, donc Norbert Dibélaï de Kananga. Bonjour Norbert. Bonjour Norbert.
Bonjour Julien Ndiombo, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati. Je voulais poser la question à J.R. Lungen.
Non, non, directement à J.R.
Une personne qui est allée chercher les fétiches, mais après ces fétiches-là, il commence à voler n'importe quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut parler que c'est une maladie mentale? Vous vous en doutez peut-être?
En fait, c'est parmi les causes de quoi ça de la maladie mentale, et surtout dans le milieu africain, parmi les causes, on cite des cas dont la conception magico-religieuse, dans ce sens qu'il y a quelqu'un arrive à transgresser les interdits, il y a les interdits sociaux, c'est-à-dire même en famille, non, ça, il ne faut pas faire, dans tel milieu, il ne faut pas toucher tel fétiche, et il est parti toucher, c'est comme ça, il est venu, pour nous, l'essentiel, c'est par rapport au tableau clinique qu'il est en train de présenter, au comportement qu'il est en train d'associer. Est-ce que ce comportement-là, c'est un comportement qu'on peut qualifier de la kleptomanie? À ce moment-là, il est kleptomane, mais par rapport à ça, et au niveau de la prise en charge, ça dépend de la psychothérapie qu'on peut utiliser. On peut l'amener, par exemple, à le récupérer pour devenir encore utile en société.
081-893-7, c'est pour les appels.
Il arrive que vous soyez passionné des débats politiques, que vous réagissez vite aux propos des politiques. Radio Kati vous offre un cadre pour dialoguer avec les gouvernants, les hommes politiques, ainsi que les observateurs de la société civile. Du lundi au vendredi de 19h15 à 20h heure de Kinshasa, Dialogue entre Congolais vous promène dans la sphère politique congolaise avec Aïe.
Valentin Toumboua, tant que psychologue, encore vos propos, donc on peut guérir de la kleptomanie.
Oui, nécessairement, parce que il y a deux approches, telles que nous avons vues. Il y a l'approche biologique, s'il y a eu des causes biologiques, et il y a l'approche psychologique, si c'est à partir de stress ou de frustration. Les psychologues, il y a plusieurs psychothérapies qu'on peut utiliser pour récupérer quelqu'un qui se...
Mais c'est quand même un long processus hein, pour y arriver. C'est pas facile. Hein?
Non, pas nécessairement. Dès qu'on trouve les facteurs éthologiques, c'est-à-dire les éléments de
clarté. Quelqu'un qui est déjà adulte, l'enfant, on peut encore changer, on peut encore l'orienter autrement, mais l'adulte, est-ce possible?
Oui.
Quelqu'un qui a déjà plus de 20, 25, 30 ans même.
La première que marche d'abord pour guérir quelqu'un, c'est amener la personne à prendre conscience de son état. Or, auprès de l'adulte, c'est beaucoup plus facile. Donc, il peut prendre d'abord conscience et lui dire que les actes qu'il est en train de poser, tu sais que c'est d'abord honteux. Est-ce que tu ne peux pas te considérer comme étant un être humain et te respecter? Est-ce qu'à quel moment que tu peux prendre conscience que tu sois respecté? Parce que tout individu doit avoir cet honneur-là d'être respecté, de le voir en tant qu'individu. Je suis sûr que dès qu'il va prendre conscience de son état, ça sera la toute première démarche dans le processus thérapeutique de cet individu. Je suis sûr pour l'adulte, c'est beaucoup plus facile.
Beaucoup plus facile que l'enfant. Mais du côté aussi biologique, le médecin peut y travailler si c'est un cas de défaut au niveau de l'erreur.
Nécessairement, c'est beaucoup plus facile. On peut le prendre en charge. Et on peut l'amener à la guérison, c'est beaucoup plus facile. Ces questions qu'on puisse avoir et trouver aussi des médicaments beaucoup plus appropriés par rapport au cas. Je suis sûr, l'individu a un peu de temps et il peut...
Donc ça ne sert à rien de se moquer de cette personne, parce qu'on remarque que surtout en famille, quand un tel comportement est observé auprès d'un enfant, alors il devient la rusée ou la... finalement, c'est tout le monde qui se moque de lui.
Auprès de l'enfant, par contre, vous allez le plonger par rapport à d'autres comportements morbides. Par exemple, la timidité, il va devenir introverti. Alors, quand il y a des concepts comme ça, on nous a un peu reproché pour dire que on a plus de concepts, beaucoup plus avancés.
Oui.
Je voulais dire quand l'individu, vous allez amener l'individu à se plier sur soi-même. Et à ce moment-là, comme il n'arrive pas à s'exprimer, à être beaucoup plus, à se donner par rapport aux autres, à dire
donc qu'il sera plus présent, il sera plus autres, présent.
À ce moment-là, il devient encore beaucoup plus nuisible et à la longue, il peut encore poser des actes qui sont beaucoup plus mauvais que par rapport au petit larcin au début, qu'on pouvait bien combattre avec des conseils, avec les interdits sociaux, tels que nous avons dit. Et l'enfant peut prendre conscience que c'est mauvais. Il y a des limites par rapport à ce que moi je veux poser comme acte, et ces limites-là, c'est par rapport au tolérable de la société. Je ne peux pas aller au-delà. Voilà. Si je veux aller au-delà, c'est-à-dire je deviens inadapté. Et petit à petit, il va prendre conscience et il se conforme par rapport à la société. Mais par contre, celui qui aura l'obsession, telle que nous avons dit, il dépasse maintenant de la scène pour devenir l'étape de la
normalité. Voilà, Valentin Tumbois, vous êtes psychologue. Nous concluons que la kleptomanie, c'est une maladie mentale caractérisée par l'obsession à voler des objets. Et de toute façon, on peut en guérir. Donc on peut guérir si c'est un aspect pour des causes biologiques, que ce soit pour des causes biologiques ou psychologiques, on peut en guérir. Il y a une thérapie, donc disons, au niveau de la psychologie qu'on peut faire. Merci d'avoir accepté notre invitation, Valentin Thomas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous aurons sûrement des réactions après des auditeurs. On vous laissera parvenir pour peut-être nous aider dans ce sens-là. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et bonne semaine.
Merci beaucoup.